de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Né en 1877, mort en 1961, Henri Breuil, l'abbé Breuil, fut longtemps considéré comme le pape de la préhistoire, internationalement reconnu comme le spécialiste incontesté de l'art pariétal préhistorique. C'est en Dordogne que l'archive qui vient nous invite à le suivre, sur les sites majeurs que sont les grottes des Combarelles et de Font de Gaume, dont on lui doit la découverte. Une émission dans laquelle on entend notamment l'autre grande figure française de la préhistoire, André Leroy-Gourhan, son successeur au Collège de France, à la chaire de cette discipline. En 1984, Leroy-Gourhan écrivait encore d'Henri Breuil. Penser à l'art préhistorique suggère immédiatement le nom de l'abbé Breuil. Fondateur d'une recherche dont il a conduit l'essor pendant un demi-siècle et qu'il continue de présider, il a attaché sa marque à une œuvre immense et tout effort pour surélever l'étude se fonde sur l'édifice qu'il a construit. En Périgord, sur les pas de l'abbé Breuil, une émission proposée par Robert Lancement en 1977. Mise en onde, Jeanne Rollin-Weiss.
Et là,
il faut que je m'habitue en effet.
Oui, oh, c'est noir.
Oui.
Ah, c'est terrible.
La robe est très très belle dans la même, alors il fait si noir, je n'y vois rien.
Oui, oui.
Voilà. Je vais refermer la porte derrière.
Oui. Ah, mais que c'est beau ici! Mais là, on est sous combien de mètres de falaise?
Oh, pas plus d'une vingtaine, ce n'est pas très important.
Oh, c'est très très impressionnant. Ces galeries. Mais ça, c'est des galeries naturelles, il n'a pas été question qu'elles aient été retouchées par l'homme, ou bien ça a été refait au moment de la découverte?
Non, non, elle n'a pas été retouchée.
Mais là, c'est complètement. Le sol a été abaissé un peu par endroit.
Le sol a été abaissé, dites-vous?
Oui, le sol a été abaissé par endroit, pas partout, mais ici, par exemple, de 20-30 cm.
Oui.
Et dans les parties ornées, quelquefois 60-80 cm, et les derniers travaux, environ 1,20 m, mais essentiellement par mesure de sécurité.
Ah oui.
Et cette galerie, les stalactites qui sont cassées étaient cassées, peut-être quelques-unes par la main de l'homme préhistorique, d'autres cassées probablement par des secousses sismiques au moment où les volcans du Massif central étaient en plein fonctionnement. Hein. Beaucoup
oui, oui.
sont très très anciennement cassées.
Oui, oui, oui.
Alors vous voyez, la grotte de Font de Gaume mesure, je crois, 124 mètres de longueur.
Oui.
Et nous parcourons là une première partie d'une soixantaine de mètres où il n'y a aucun dessin.
Oui, je vois.
Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que dès 1910, c'est-à-dire dès la publication de cette énorme monographie signée Capitan, Breuil et Peroni sur la grotte de Font de Gaume,
oui.
les auteurs se sont interrogés sur l'absence de ces dessins dans cette première partie.
Oui.
Et ils se sont demandé si c'était dû au fait que le sanctuaire était localisé au fond de la grotte,
oui.
ou bien s'il n'y avait pas eu, au contraire, une dégradation des dessins rupestres dans toute la première partie de la grotte.
Oui,
il y a là un chapitre remarquable de Capitan Breuil et Peroni, et probablement en fait de l'abbé Breuil,
oui.
Sur les causes de destruction oui. des dessins préhistoriques à l'entrée des grottes.
C'est ça. Oui. Et nous en avons un exemple sous les yeux. Le support est très érodé, très travaillé par les mouvements d'air, parce que nous allons arriver à un embranchement d'une seconde galerie qui revient elle-même vers l'extérieur, qui a été une seconde entrée, en fait, de Font de Gaume, et qui a toujours constitué un mouvement d'air entre ces deux premières parties. Ce qui fait que s'il y a eu quelque chose ici, on ne peut plus rien retrouver.
Oui.
Mais ce que je pourrais ajouter, par exemple, à ça, c'est que nous, par exemple, quand nous avons fait le nettoyage de Font de Gaume en 68,
oui.
en 67 exactement, nous avons retrouvé ici des traces de pigments et d'ocre rouge en particulier, encore quelques petites traces qui subsistaient. Donc, on pourrait supposer qu'il y a eu des peintures et des gravures plus avant. Peut-être pas tout le long, mais plus avant.
Il faut se baisser ici.
Alors là, nous arrivons dans la première partie. On est, en fait, il y a des traces de gravure juste avant le Rubicon que nous venons de franchir. Mais c'est ici qu'on faisait les premières importantes découvertes. Et vous le voyez vous-même, sous les quantités de graffiti, hélas, qui étaient là déjà depuis le 19e siècle. Mais nous allons regarder de plus près et vous allez voir une superposition qui est fort intéressante.
Oui. Ah, ça y est, je vois déjà. Et c'est le...
Voulez-vous que j'aille chercher une baladeuse pour que vous puissiez mieux voir la superposition ?
Eh bien, nous avons parcouru 60 mètres et nous sommes arrivés, nous avons passé un endroit très resserré de la cavité, un endroit qu'on appelle le Rubicon. Et nous sommes dans une galerie qui termine la grotte sur encore une soixantaine de mètres, galerie très étroite, 2 à 3 mètres au maximum, et très haute. Et les deux parois de cette galerie sont couvertes de peintures et de gravures, car dans Van Gogh, nous trouvons les deux techniques. La peinture, d'une part, en rouge, en brun, en noir, en jaune, et la gravure, avec en plus, quelquefois, une utilisation très remarquable et très astucieuse des reliefs naturels, car, bien entendu, toutes ces cavités sont naturelles, n'ont pas été retouchées par l'homme préhistorique. Il a utilisé un fond donné.
Il a utilisé la paroi avec ses bosses, avec ses creux, c'est ça que
exactement,
vous avez dit,
oui. Les époques différentes. Et alors, dans certains cas, une peinture que nous voyons est en réalité très soigneusement gravée sous la peinture. Il y a
ça,
donc une association de techniques. Oui. De même que dans d'autres sites, nous trouvons des sculptures qui sont également peintes.
Oui, je comprends.
Et alors, la faune représentée, les sujets représentés dans cette cavité sont assez nombreux. D'abord, il faut dire qu'il y a 200 figures recensées, et essentiellement des figures d'animaux. Mais Madame Dobis pourra vous dire quels sont les animaux que nous trouvons dans la grotte.
Ben, le premier, c'est un... Qu'est-ce que c'est, un bison ?
C'est un bison, et c'est le bison que nous retrouverons en abondance. C'est l'animal dominant à Van de Gombe.
80, il y en a.
Ah oui, et il y en a plus, puisque depuis, il y en a qui ne sont pas encore recensés. Mais il y a des mammouths, il y a des bouquetins, il y a beaucoup de chevaux, il y a des félins, il y a un rhinocéros laineux, il y a... des signes tectiformes qui comptent beaucoup. Des signes dits tectiformes, parce qu'en forme de toit, mais des signes symboliques sans doute, c'est représentés dans de très nombreux sanctuaires. Voilà en gros ce que l'on va voir. Enfin, nous ne verrons pas tout aujourd'hui, puisqu'il y a des galeries extrêmement difficiles d'accès, où nous aurions souvent beaucoup de difficultés à circuler tous ensemble.
À cause de l'eau ?
Non, à cause de l'étroitesse des galeries. Et le rhinocéros, par exemple. Le félin faisant face à des chevaux gravés qui reste une image magnifique de Van de Gombe. Je pense que nous n'aurons pas la possibilité de les voir.
Alors montrez-nous au moins quelque chose.
Alors là, nous avons ce bison qui est en fait le premier qu'on peut voir au cours de la visite et qui est encore, je crois, bien coloré, qui se retrouve facilement. Sur ce bison se trouve une superposition et là, il est question de mammouths qui ont été gravés, obtenu à partir d'un raclage du support. Vous suivez l'ombre de ma baguette et je pense que ça devrait vous aider à situer la tête du mammouth, le dos. On voit même la queue, voyons les jarres venant jusque-là. Ouais. Et en plus, nous avons des chevaux, dont un qui est encore très visible. Je pense que là, oui, vous le verrez sans difficulté, qui serait, d'après l'abbé Breuil, une des plus anciennes figures de la grotte.
Ah, oui.
Alors, le petit cheval... Les bisons, peints en rouge ou quelquefois polychrome, et les mammouths ensuite, qui seraient les graphites les plus récents de la grotte.
Oui. Alors vous voyez ce panneau qui en fait totalise 5 bisons, 6 mammouths, 3 rennes et cervidés et 2 ou 3 chevaux. Eh bien, ce panneau a été, comme les autres panneaux de la grotte, admirablement relevé, décalqué par l'abbé Breuil, oui. Et publié, bien entendu, dans cette grosse monographie parue en 1910. Mais ce qu'il y a de remarquable, c'est que dès 1910, l'abbé Breuil, surtout lui, bien qu'il ait eu deux co-auteurs, l'abbé Breuil a tenté de connaître la succession de ses dessins, et il a intitulé un de ses chapitres magistraux « Premières hypothèses sur l'âge des fresques de fond de gomme, l'effet de superposition ». Car le grand problème de l'art préhistorique, l'un des grands problèmes, ce n'est pas seulement de déchiffrer, ce n'est pas seulement de relever, mais c'est également de dater, de resituer dans le temps, et ensuite on essaiera d'interpréter ces documents, de savoir à quoi ils servaient. Eh bien, c'est à fond de gomme que l'abbé Breuil a démarré ce travail important qu'il a poursuivi jusqu'aux environs de 1952 sur l'art des cavernes, la datation au moins relative de l'art des cavernes.
Vous parliez d'éclairage tout à l'heure, regardez éclairé d'ici, on voit parfaitement ce que vous nous disiez du bison et du mammouth superposés.
Ça dépend évidemment, si c'est pour voir de la couleur, il faut éclairer de face, c'est de la gravure, il faut éclairer de rasant, voilà. Et en fait, tout est gravé, puisque même le petit cheval, vous pouvez le remarquer, la tête, l'œil est figuré.
Oui, je le vois très bien.
Tout est gravé.
Ah oui, c'est très, très visible. Et là, il y a quelque chose ?
Ah oui, là, il y a une très belle grille de
bison. Où donc ?
Je l'éclaire, madame.
Docteur Léon Pallès, ancien directeur du Musée de l'Homme.
Le centenaire de l'abbé Breuil. Pour moi, c'est le cinquantenaire d'une amitié. Lors de son jubilé, en 1957, au Musée de l'Homme, où j'étais alors sous-directeur, il me parla de son enfance, de son adolescence. Je le poussais un peu plus loin, dans le passé, il me parla de ses grands-parents et de ses aïeux. Et je m'aperçus alors, mais plus encore depuis, qu'il y avait là, en germe, dans cette enfance, bien des choses de sa vie future. C'est cela que je voudrais évoquer. Je vais donc remonter dans le passé. Et tout d'abord, à son aïeul, Annette Moriot de Lille, général, baron d'Empire. Il y avait donc dans le passé de l'abbé un fonds militaire. Le général Moriot de Lille eut entre autres comme fils Prosper et Henri. Prosper Moriot de Lille avait eu dans sa jeunesse comme correspondant le roi Jérôme. Et il avait connu Prosper, celui qui devait devenir Napoléon III. Si bien que, après avoir été sous-préfet de l'Espart, puis sous-préfet de Bergerac, il fut nommé sous-préfet de Compiègne. Il épousa Adèle François, fille d'un médecin d'Épernay. Vous me direz, mais tout ceci, ça n'a rien à faire avec l'abbé. Détrompez-vous, car Prosper, son grand-père, abandonna ses fonctions de sous-préfet et mena une vie de gentilhomme campagnard sur ses terres qui lui venaient de sa femme. Et l'abbé m'a dit, cet homme qui aimait énormément la nature, je lui dois la découverte de la nature, c'est lui qui m'a appris la campagne, la chasse, les arbres. Quant à son épouse, Adèle François, elle avait acquis d'elle-même des connaissances de botanique. Et elle était une remarquable artiste, elle dessinait et elle maniait l'aquarelle avec un art incomparable. Exactement ce que devait faire l'abbé Breuil. Prosper Moriot de Lille eut des enfants et eut tant d'autres, Lucie Moriot de Lille, qui allait être la mère de l'abbé. Et elle rencontra Albert Breuil. Qu'y a-t-il du côté des Breuil ? C'est une lignée de magistrats. Et le grand-père paternel, Édouard Breuil, mourut conseiller à la cour d'Amiens. Il se maria avec Mademoiselle Mignon de Pomeroy, petite fille de Mignon d'Enleval, qui apportait, comme dit l'abbé, un sang noble picard à la famille. Le fils d'Édouard Breuil, Albert Breuil, le père de l'abbé, avait lui aussi fait une carrière de magistrat. C'était un homme sévère, très ordonné, n'hésitant pas à recourir au sentiment corporel. Il n'était pas artiste, mais légiste et aimant les mathématiques que l'abbé Braille abhorrait. C'était pourtant un homme très cultivé, lisant beaucoup, chasseur et pêcheur, et ceci qu'il faut retenir, c'était un entomologiste amateur de très haute qualité, et très tôt, il entraîna l'abbé dans des collectes et des études entomologiques. La mère de l'abbé, à l'opposé de son époux, était une femme extrêmement douce. Et c'est elle qui soutint son petit garçon. Il en parlait d'ailleurs chaque fois avec émotion. Car à l'époque, et ceci va peser sur une partie de sa vie, pas sur toute, voici ce qu'il me dit de lui, de son propre physique. « J'étais gringalé, souffreteux, jamais bruyant, dolent, peu attaché au travail qui s'en ressentait, et rêveur. » Voilà l'abbé, tout petit enfant, peint par lui-même. En 1887, franchissons les étapes, il a terminé ses études primaires et va entreprendre le secondaire. En sixième, il entre au collège Saint-Vincent de Senlis, chez les Maristes. C'est en octobre 1887. Là, il se heurte à des camarades bruyants, agités, beaucoup plus forts que lui physiquement, et qui le battent, et qui s'accommodent mal de ce petit compagnon qui se tient dans son coin, sans beaucoup parler. Et alors, il l'appelle l'ours. Et parce qu'aussi, il ramasse toujours des choses sur le sol, qu'il gratouille le sol, déjà, il l'appelle aussi la fouine. Il le batte. Braille, avec ses faibles moyens physiques, se défend. Il lutte. Il lutte. Ce terme de lutteur, moi, je le lui attribuerai pour toute la vie. En maintes circonstances, il a lutté. Il faudrait que je cite des anecdotes, des pages entières. Je dirais simplement qu'il a lutté avec ses armes. Le verbe. La plume. Et un incontestable rayonnement. Mais au collège de Senlis, il n'eut pas que des camarades désagréables. Il y en avait de très gentils. Et avec eux, il allait dans la forêt de Senlis poursuivre les recherches entomologiques. Et c'est ainsi qu'il prépara son baccalauréat de rhétorique, où il était faible en vers latin, me dit-il, et en allemand, appréciant peu la littérature, tourné vers l'histoire naturelle, et ce fut l'histoire naturelle qui le sauva, il fut reçu, mais sans mention. Dès lors, la rêverie de la petite enfance s'accuse, si bien que son surveillant le considère comme un petit vieux, et c'est l'appellation qu'il lui donne. Et pourtant, me dit Braille, je sens qu'à ce moment-là, ma pensée s'exprime. Et c'est alors qu'il part pour l'Afrique. Entendez-moi bien. Un de ses camarades du collège reçoit les voyages autour du monde, cette revue illustrée qui retrace à l'époque les aventures de Livingstone. Braille se plonge dans ses pages, ne regardant pas le texte, mais les images, qu'il entoure de toute son imagination, qu'il orne. Le voilà en Afrique. Il y est, il la vit, cette Afrique. Et à quoi pense-t-il de ce moment-là? À devenir missionnaire. Oh, il est très clair là-dessus. Non, m'a-t-il dit, pour le rôle, mais pour le milieu. Vient le baccalauréat de philosophie. Il est reçu avec mention assez bien. L'idée lui vient alors, je n'ai jamais très bien su pourquoi, de faire sa médecine. Mais alors là, ce sont les médecins qui s'opposent. Car s'il s'était déjà opposé en souriant au projet de missionnaire, qu'il n'avait pas pris au sérieux, il s'oppose à ce projet de médecin, car Braille n'aura pas la résistance physique nécessaire pour aborder cela. Et non seulement il s'y oppose, mais il conseille un an de repos complet à la campagne. Braille est enchanté. Il part à la campagne, dans une des propriétés familiales, il y vit seul. Et là, l'année s'étant écoulée, il prend la décision de se faire prêtre. Voilà donc l'abbé Braille, 1895, qui entre au séminaire d'Issy-les-Moulineaux. Là, parmi ses maîtres, il y a le professeur d'histoire naturelle. Son nom est marqué d'une pierre blanche. Il s'appelle l'abbé Guibert. C'est lui qui va être le catalyseur dans cette affaire. Car il a découvert dans Braille, le naturaliste. À cette époque-là, des idées courent par le monde, qui pénètrent par-dessus les murs des séminaires, sur l'origine de l'homme, les opinions d'Albert Gaudry, du Muséum. Ces idées nouvelles, on en parle, aux récréations, le soir. Braille tend l'oreille. L'abbé Guibert, lui, tend des livres. Ceux de Mortillet, d'abord. Ceux de Gaudry, ensuite. Et puis, la collection complète des matériaux créés par Gabriel de Mortillet, repris par Cartaillac. Dauduménil, se parant éloigné, lui dévoile les mystères des ballastières de la Somme et de nombreux gisements. Et il va ainsi jusqu'aux côtés de Capitan et Salmon, sur le terrain où il commence de petites fouilles. Et à Keuvres, où il y a un gisement de mammouth, auquel s'intéressent les paléontologistes, sous une pierre, il découvre trois petits squelettes. Et il les identifie lui-même. Ce sont des squelettes de marmottes. Alors les maîtres Gaudry et son disciple Marcelin Boule sourient en regardant celui qu'ils appellent le petit curé. Boule. Boule qui va être dans peu de temps son directeur à l'Institut de paléontologie humaine. Tous ces noms, tous ces sites vont revenir en écho dans la vie de Braille, d'une façon ou d'une autre. Dès ce moment-là, le sort est noué. En été 1897, ce sont les vacances du séminaire, Dauduménil conseille à Braille d'aller voir les gisements préhistoriques du sud-ouest. Et avec quelques sous en poche, il descend vers le sud-ouest en s'arrêtant d'abord à Brive, où est son ami Jean Bouissonni, qui lui aussi a commencé des fouilles. À Brive, il voit les collections d'Elie Masséna. Il rencontre Zéside Nipeironi. Et là se lie une amitié qui, elle aussi, comme celle de Bouissonni, va durer toute une vie. À Pernompère, qu'il relèvera un jour, il rencontre Dalot. Et puis, surtout et entre tout, descendant vers les Landes, il atteint Brassampouy, et le 17 juillet 1897, une date à retenir, il rencontre Édouard Piette. Piette, ça va être le détonateur. Il découvre en ce jeune homme le savoir déjà, la passion et une extrême habileté des dessinateurs. Alors il le convie à venir, à l'automne, dans les Ardennes, voir ses collections. Braille a le coup de foudre, le mot est de lui, et il fait, le mot est encore de lui, le plongeon dans l'âge du renne. Ces objets qu'il touche, dont son œil saisit les moindres détails, il va les dessiner de sa main habile, à la demande de Piette, qui le paiera. Et l'abbé en a grand besoin. Tous les personnages, ou presque, sont en place, le drame peut se jouer, et Braille a 20 ans. Début octobre 1897, il entre à Saint-Sulpice. Le 9 juillet 1900, il est ordonné prêtre. Il ne peut qu'être que vicaire de paroisse. C'est renoncer à tout ce qu'il a déjà prévu, imaginé, d'une vie de recherche, d'études. Cette vie de naturaliste que le petit enfant déjà décelait. Il se souvient alors que l'évêque de Soissons lui dit un jour, « Si vous avez besoin d'un conseil, venez me voir. J'aimerais vous avoir près de moi dans le Soissonnais. » L'évêque de Soissons. À ceux qui m'écoutent, je demande de retenir ce nom, plus peut-être qu'aucun de ceux que j'ai prononcés ou que je prononcerai par la suite. Car s'il n'y avait pas eu Monseigneur de Ramecourt, il n'y aurait peut-être pas eu le grand préhistorien Abbé Braille et la préhistoire Anupati. Car l'abbé, qui livre son cœur tout entier à son évêque, lui déclare qu'il a besoin de 5 années pour préparer ses études. Et Monseigneur de Ramecourt accepte. C'est la clé de la vie de Braille. Braille s'inscrit à la faculté des sciences de Paris. Braille est déjà attaché au paléolithique. Le 6 juillet 1901, il acquiert le certificat de géologie. Mais il a produit dans l'année, chaque année depuis 1898, 9, 10, 12 publications. Mais cette année 1901, elle a une grande signification pour nous. Capitan et Peyroni sont dans le sud-ouest, en été. Braille les y a rejoints. Et le 8 septembre 1901, c'est la découverte des Combarelles. Hurrah ! Pour une découverte, en voilà une, d'envergure. Une immense grotte à gravure de plus de 300 mètres de long et sur plus de la moitié de figures d'animaux, gravées, surtout des chevaux, mais aussi des antilopes, des rennes, des mammouths, des bouquetins. C'est à croire que j'ai rêvé. Tombé là-dessus, tout bonnement, comme on trouve un caillou sur la route. Aussi, ce que nous avons trimé hier, j'ai calqué 18 bêtes, il y en a de splendides. J'ai en tout passé 10 heures dans la grotte. Je suis mort, cousu de courbatures, mais content. Extraordinaire, hein? Moi, je remercie la Providence. Piet avait été le détonateur. Les Combarelles, c'est l'explosion. Et ce n'est pas tout. Capitan vient de partir d'un côté. Braille est un peu plus loin de l'autre. Peyroni, 3 jours après, va dans une grotte voisine. Elle s'appelle Fond de Gomme. Et il y voit des gravures qu'on découvre pour la première fois. Il ramène ses compagnons qui sont assez proches. Ils accourent. Et 4 jours après les Combarelles, le 12 septembre 1901, c'est Fond de Gomme. Le petit curé s'est déjà fait un nom et il a 24 ans.
Voilà, et je pense qu'il faut vous placer dans ce sens-là et même venir par là, mesdames.
Oui, venez par ici. Ah là, c'est magnifique.
Encore mieux placé. Et là, bien, je crois qu'il n'y a qu'à admirer parce qu'il s'agit d'une frise de Saint-Bison qui est encore particulièrement belle, qui sont des peintures polychromes, toujours accompagnées d'une gravure. Et là, on va pouvoir profiter de l'utilisation des formes naturelles qui est particulièrement extraordinaire.
Une chose est certaine, c'est que l'homme préhistorique n'est pas allé au fond de cette grotte uniquement pour son plaisir. Il avait un sens esthétique très développé, certainement, mais s'il a fait ses bisons en fil disposés comme cela sur la paroi, c'est dans un but autre et qui dépasse le simple plaisir égoïste et humain.
Mais là le relief de la pierre est admirablement utilisé.
Oui, il se donne un mouvement et un
volume. Ah oui, là c'est...
Tout est vivant.
Alors vous voyez, dessous, là, sous le bison central, il y a une main négative, ce que nous appelons une main négative, c'est-à-dire que le contour de la main s'inscrit en clair, cerné de couleur noire. Et on s'est demandé si ce n'était pas un signe de possession, justement, de l'homme préhistorique, un rite magique.
C'est une main gauche. Il y en avait deux. Parce que l'autre est ici, mais beaucoup plus effacée. Celle-là est très effacée. On voit encore les doigts, quelques doigts. Celle-là est encore très visible. Il y en a deux de plus dans la grotte. Il y a 4 mains en tout. Mais des mains gauches.
Et là, c'est très coloré, mais c'est une concrétion de la pierre ou c'est des pigments?
Non, il s'agit d'une autre peinture.
Ah, voilà. Et même de plusieurs peintures en superposition, mais recouvertes par des dépôts calcaires très anciens. Oui. Donc il est difficile d'interpréter actuellement, enfin de vous montrer au moins actuellement, oui, mais il y a un bison qui est là, la tête est ici. Ah, oui. On voit les intérieurs bosse et l'arrière-train. Oui, oui. Il est sur une autre peinture, donc c'est une superposition. Et là, il y a la tête d'un petit cheval au contour noir, qui est encore très visible aussi. Je pense que vous devez voir
la tête. Oui, ça y est, mais
les deux oreilles en colus.
Je m'habitue maintenant.
Oui,
on s'habitue à regarder.
Il faut un temps d'adaptation et après, ça devient très facile.
Ce qui est des mâles paraissent très grandes, non?
Oh, pas non. Non, non, pas très grandes.
Dans une visite, il y a un petit garçon qui me dit, mais madame, pourquoi ça ne serait pas des femmes qui auraient fait les peintures? Je dis, après tout, c'est vrai. Pourquoi ça ne serait pas des femmes?
Alors là, c'est vrai, on n'a jamais pensé.
On a toujours envie de penser aux chasseurs de rennes.
C'est ça, oui.
Vous les permettez, je vous l'attends. Ah non, vous...
Non, c'était tout simplement pour éclairer ce bison, qui est encore une très très belle image de fond de gomme, que vous verrez, je pense, facilement, clairement, avec toujours à peu près les mêmes techniques de dessin que pour ceux que nous venons de voir, c'est-à-dire les polychromes, qui font partie des peintures apparemment les plus récentes. Du Magdalénien supérieur, sans doute. Hein. C'est une peinture qui se trouvait à peu près au niveau du sol, hein, celle-ci. Quand elle a été exécutée, c'est au niveau du sol qu'on l'a exécutée.
Oui, alors que nous
sommes maintenant à 60 cm en dessous, à peu près.
Ouais,
à peu près.
Quand j'avais visité la grotte en 1952, c'est vraiment, avait déjà fait abaisser le sol.
Oui,
je me souviens que la mémoire était furieux parce qu'il ne se repérait plus très bien dans la grotte.
Oui,
enfin, il cherchait les figures à d'autres hauteurs que celles...
Et oui, ça changeait tout.
Et pourtant, c'est curieux parce que ça a l'air d'être une bonne hauteur pour le peintre.
Oui, ça, d'accord. Enfin, mais... la position des œuvres, c'est un autre problème. Là.
Oui, on a travaillé à tous les niveaux. Il ne faut pas penser que l'homme n'a travaillé qu'à sa hauteur. Nous pensons qu'il a d'abord commencé par utiliser les supports, utiliser les surfaces planes au maximum où elles se trouvaient, quelquefois à des hauteurs extraordinaires, ce qui entraîne aussi à penser aux échafaudages, puisque on a aussi un exemple des mammouths de Bernifal maintenant, où enfin, pour ceux qui sont là-haut, il a fallu s'y installer, il n'y a pas de doute.
À Lascaux également, parce que dans l'abside au-dessus du puits, il était obligatoire de monter un échafaudage.
Absolument.
Dans d'autres cas, l'homme est allé peindre ou graver dans des petites fissures où l'on ne peut pénétrer que...
Très mal.
En étant comprimé.
Absolument,
partout.
Oui. Nous avons découvert un petit mammouth, là, il y a quelque temps, dans une toute petite cavité où l'homme n'a pu y passer que couché sur l'épaule gauche. Il n'a forcément pu travailler que de la main droite, et puis dans des conditions épouvantables. Et je crois que ça aussi, ça fait sentir, non le côté esthétique et décoratif et amusant, mais le côté... Enfin, le besoin, la nécessité d'avoir représenté, tant que ce n'était pas pour le plaisir.
Et peut-être en des endroits bien particuliers qui avaient un caractère, un pouvoir magique. Le petit anthropomorphe découvert par le professeur Laura Gourand également est dans un recoin inaccessible. Oui, faire de la gymnastique pour le voir, l'atteindre.
Nous allons peut-être donner un coup d'œil sur les femmes.
Madame,
oui, s'il vous plaît, madame.
Ah, mais c'est tirant, quand elle va bien fort. Voilà.
Merci. L'abbé Breuil, document 1952.
Je vous parle du premier art que nous connaissions, lequel se développe pendant la dernière période glaciaire, dans les 40 ou 50 000 ans qui précèdent l'établissement du climat actuel. À cette époque-là, si lointaine déjà, l'homme vivait donc dans des conditions qui lui permettaient de développer ses facultés artistiques d'une façon extrêmement remarquable. Cela n'est pas l'œuvre d'un jour, naturellement. Il y a quelques 40 000 ans, les premiers dessinateurs ont commencé à tracer sur les murs couverts d'argile avec les doigts des images, où ils ont également, avec les doigts souillés d'argile sur des parois rocheuses, promené leurs doigts de façon à faire des espèces d'entrelacs parmi lesquels on voit naître des figures d'animaux et parfois d'hommes. Ils ont aussi imprimé sur les parois des mains cernées de couleur rouge ou noire, qui sont non pas des figures humaines, mais les premières manifestations d'une préoccupation d'associer l'homme aux œuvres d'art qui les avoisinaient.
Docteur Léon Pallès.
L'art pariétal existe. On a découvert des gravures à la Grotte Chabot en 78, à La Motte en 95 avec Émile Rivière, à Pernon-Père avec Dalot, et que l'abbé a vu. À Marsoulas, en 1897. Mais enfin, il faut rompre encore quelques lances. Et voilà que, en août 1902, l'abbé rencontre Émile Cartaillac. Cartaillac entraîne Breuil à Marsoulas. Et là, il est conquis. Ayant conduit Breuil à Marsoulas, il va l'entraîner à Altamira. La soutane de l'abbé est constellée de taches de bougie, peu importe. Les relevés au pastel sont faits, ces pastels originaux qu'eût admiré, si elle n'était morte en 1896, sa grand-mère, la dessinatrice. Ces pastels originaux qui sont aujourd'hui au Musée de l'Homme. Et au sortir d'Altamira, Cartaillac, comme de la plus grande loyauté, écrivait le mea culpa d'un sceptique.
Avant la découverte de fonds de gomme et des cambarelles, on ne connaissait pas beaucoup de grottes ornées et la principale, celle d'Altamira, avait été découverte en 1879. Mais vous vous souvenez que cette découverte avait été niée, l'authenticité, l'ancienneté de cette découverte était niée par la plupart des scientifiques. Alors il a fallu justement attendre la découverte des cambarelles où beaucoup de gravures sont partiellement recouverte de coulées de calcite ou même de cristallisation. Il a fallu attendre la découverte de la grotte de fond de gomme où certains panneaux sont en partie masqués par des voiles de calcite mais qui peuvent atteindre plusieurs millimètres d'épaisseur et qui n'ont pas pu se former très rapidement pour que l'on ait un argument positif qui emporte l'acceptation, l'adhésion de certains scientifiques.
Je crois aussi que pour la Motte, on pourrait ajouter que la découverte des premières lampes à graisse de la Motte était quelque chose de sensationnel, qui arrivait, qui appuyait aussi à l'authentification, qui ajoutait, puisque on venait par ce moyen-là de découvrir la façon dont ces gens s'étaient éclairés. Ça, c'est important, je crois.
Oui, certains détracteurs de l'art préhistorique prétendait que l'homme primitif, puisqu'on l'appelait comme ainsi, ne pouvait pas dessiner au fond de ses cavernes puisqu'il ne pouvait pas s'y éclairer. Et la découverte d'une lampe sculptée dans le remplissage archéologique de la Motte a démontré à l'évidence que l'homme préhistorique avait inventé le luminaire.
Oui, et il se servait certainement de moyens végétaux qui n'ont pas laissé de traces, comme des torches, par exemple.
Je crois aussi que le fait d'avoir découvert dans les gisements, par exemple, de logerie basse ou de logerie haute, des gravures sur os représentant des mammouths, enfin une faune qui avait disparu depuis au moins la dernière glaciation, c'est-à-dire minimum 2000 ans,
oui, c'est ça.
Confirmait aussi la présence de mammouths dans les grottes, où les artistes qui les avaient dessinés les avaient forcément connus et vus, sinon... C'était pas réalisable.
Je suis d'accord avec vous sur le principe, mais fort curieusement, précisément, beaucoup de savants de l'époque n'avaient pas fait la relation, puisque les œuvres d'art mobilier étaient connues depuis le milieu du 19e siècle, les gisements de logerie haute, de logerie basse, de la Madeleine avaient craché des œuvres d'art par dizaines et des magnifiques, comme le mammouth sur. Ivoire de mammouth de la Madeleine, découvert par l'Arte Christi en 1864, eh bien, malgré ces découvertes, il ne pouvait pas accepter que l'homme ait pu peindre ou graver au fond des grottes. C'est un des mystères, en somme, de l'esprit humain, cette non-acceptation de l'art préhistorique pariétal.
15 juillet 1903, Breuil passe son certificat de botanique. Tiens, la grand-mère, encore. Le 24 octobre 1903, le certificat de physiologie générale. Il lui restera à passer, et il n'y manquera pas, celui de géographie physique. Il est donc licencié en sciences naturelles de la faculté de Paris. Il n'a donc plus qu'à préparer sa thèse d'agrégation. Et c'est ce qu'il fait. Il manquait quelque chose au tableau. Mais voilà que Cartaillac et Boulle vont faire surgir un personnage qui va être le mécène. Et c'est le prince Albert Ier de Monaco. Et voilà pourquoi nous aurons, sous le signe du prince de Monaco, Altamira, les Combarelles, Fonds de Gomme, et de l'Espagne, les cavernes de la région cantabrique, la Pasiega, la Pileta. En 1905, il a écrit sa thèse. Elle est prête. Elle s'intitule « La dégénérescence des figures d'animaux en motifs ornementaux de l'époque du Rennes ». C'est en fait, tout d'abord, ça, une communication à l'Académie des Belles-Lettres, des inscriptions. Elle passe inaperçue, d'ailleurs, cette communication, sauf d'un homme, Marcelin Boulle, qui dit, et la thèse qui est derrière cette communication, il serait souhaitable qu'elle paraisse. Et en fait, le muséum, sollicité, ne la publiera pas. Et elle ne fut jamais publiée. Et j'en ai le manuscrit, incomplet, dans mes archives. Tout ce que je pourrais dire d'autre des 56 années de sa vie qui suivirent n'est à mes yeux que le complément obligé. Tout cela a été dit ou écrit dans son autobiographie, dans ses propres récits publiés, par ses biographes ou par moi-même ailleurs. L'homme, l'adulte j'entends, ne fut jamais que le reflet de l'enfant.
Mais là c'est un bouquetin.
Non, il s'agit de Reines affrontées, d'une scène célèbre, merveilleuse. Il est regrettable qu'elle ait souffert au 19e par les graffitis que vous voyez, parce que c'est une des plus belles scènes amoureuses de cette faune que l'on connaisse en art préhistorique. Il s'agit d'un mâle, sans doute, en noir, penché et léchant le front de sa femelle, qui est en rouge à gauche, et à genoux, devant lui. Et les bois sont évidemment très apparents.
Oui.
La ligne dorsale est parfaite. Toujours la même habileté, la même sûreté de trait. Voilà les antérieurs. Et nous arrivons à la tête.
Oui.
La tête qui est gravée, fort heureusement, car sans la gravure, nous n'avions plus. Vous devez pouvoir situer l'œil, là-haut, dans la pointe de l'ombre de ma baguette. L'oreille est ici. Alors nous voyons le front, le museau et la mandibule très marquée venant jusque-là. Alors le détail qu'il faut voir et qui est important, je crois, c'est la langue de l'animal qui est tendue au niveau du front de la femelle.
Et ça, c'est un des rares exemples de scènes représentées dans l'art préhistorique.
Quels sont les ingrédients avec lesquels sont réalisées ces peintures?
Madame Daubis peut vous répondre. Aussi bien que moi, elle en a trouvé dans la grotte, certainement.
Oui, on a trouvé à plusieurs reprises. Il s'agit d'oxyde naturel, d'oxyde de fer, de pyroxyde de fer ou de dioxyde de manganèse.
Et qui ont quelles couleurs, respectivement?
Alors, en principe, ce que nous retrouvons à fond de gomme est surtout rouge et noir. Mais il y a des jaunes, comme le disait M. Rousseau tout à l'heure. Et il y a eu aussi, à partir de ces couleurs, de très, très habiles mélanges, puisque nous trouvons des dégradés de brun qui sont absolument merveilleux. Ces ocres ont été utilisés probablement de différentes manières. Ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est qu'on les a utilisés sous forme de bâtonnets, sous forme de fusains, puisque nous les avons retrouvés dans la grotte, plus ou moins cassés, mais des morceaux quelquefois de 10 à 15 cm, dont les extrémités étaient encore très effilées, très taillées d'ailleurs. Et là, on sentait bien que l'homme avait utilisé ça sous forme de crayon, en tout cas pour cerner les contours des animaux.
Alors, on ne connaît pas de bleu et on ne connaît pas de vert dans l'art franco-cantabrique. Quelquefois, des très légères nuances bleutées apparaissent par des mélanges de teintes entre l'oxyde de fer, l'oxyde de manganèse, etc. Et puis, quelquefois, des concrétions ont pu recouvrir très légèrement les noirs et leur donner un petit reflet bleuté.
François Borde, directeur de l'Institut du Quaternaire à l'Université de Bordeaux 1.
Au début du siècle, il y a eu lieu ce qu'on a appelé la bataille aurignacienne. C'est un terme un peu technique, mais qui s'explique très facilement. Aujourd'hui, le paléolithique supérieur est divisé en gros, n'est-ce pas, en aurignacien, solutréen et magdalénien. L'aurignacien contient beaucoup d'objets à travailler, le magdalénien aussi, et le solutréen en contient moins. Se fondant là-dessus, un certain nombre de théoriciens, en particulier M. de Mortillet, avaient déclaré, n'est-ce pas, que la séquence devait être, évidemment, après le moustérien de l'homme de Néandertal, n'est-ce pas, le solutréen, puis l'aurignacien, puis le magdalénien. Et ceci ne correspondait pas, évidemment, à la réalité. C'était une vue simpliste des choses. Et Breuil, avec l'aide de Peyroni, qui était alors instituteur et un jeune préhistorien, a pu démontrer, après une bataille féroce, avec les tenants de la théorie de Mortillet, n'est-ce pas, que, en réalité, l'aurignacien était bien avant le solutréen et non pas après. C'est une bataille, d'ailleurs, fort pittoresque, et quand on relit les publications de l'époque, on s'aperçoit que la bataille a été très chaude, les injures volées de part et d'autre, et où on s'accusait mutuellement de falsifier les coupes. Mais il n'en reste pas moins que la stratigraphie l'emporte toujours, et quand on a pu démontrer, à la suite essentiellement de Breuil et de Peyroni, que chaque fois qu'il y avait superposition, l'aurignacien se trouvait sous le solutréen et non pas au-dessus, la bataille a été gagnée. C'était dans cette bataille, l'abbé Breuil a montré, n'est-ce pas, son énergie, sa vigueur de polémiste, et c'est extrêmement intéressant, du point de vue de l'histoire des sciences, de relire ses papiers de début du siècle. L'article qu'il a publié en 1912, qui s'appelle « Les subdivisions du paléolithique supérieur », est un article qui est encore consulté tout le temps. Et vous savez, pour un travail scientifique, ça fait maintenant plus de 50 ans, un travail scientifique qui tient encore debout après 50 ans, ça n'est pas tellement fréquent. Il avait tout vu, ou presque tout. Et quelquefois, on croit avoir fait une découverte dans le paléolithique supérieur, on prend Breuil, les subdivisions, et on s'aperçoit qu'entre deux virgules, comme négligemment, n'est-ce pas, il l'avait déjà vu. Et il avait un sens typologique extraordinaire. Quand il avait vu un silex, il ne l'oubliait jamais. Et il avait une excellente patte de dessinateur, quelquefois un peu, comment dirais-je, un peu griffé, un peu comme à la manière d'un chat. Mais les objets, n'est-ce pas, qu'il dessinait, surtout les objets en os, étaient parfaitement reconnaissables et identifiables. Ce n'était pas n'importe quel harpon qu'il dessinait, c'était bien ce harpon-là. Et on peut toujours aujourd'hui les reconnaître. C'était un homme d'une énorme intelligence, avec une mémoire d'éléphant qu'il d'ailleurs, consolidait par la tenue d'un journal quotidien, mais quand même, je l'ai pris souvent à l'improviste, à un moment où il n'avait pas son journal sous la main, et il répondait toujours de manière extraordinairement précise. À côté de cela, il avait évidemment, comme nous tous, ses défauts. Il était extrêmement vindicatif, quelquefois, et quelquefois, quand il n'aimait pas quelqu'un, il pouvait aller jusqu'à être injuste. Mais l'un dans l'autre, ça restera certainement une des grandes figures de la préhistoire mondiale.
Denise de Sonneville-Borde, directeur de recherche au CNRS.
Il s'est toujours davantage intéressé aux relevés et à la fidélité des relevés, et ensuite et principalement la chronologie de l'art pariétal. Mais oui, il n'a pas échappé naturellement à la question que l'on se pose constamment et toujours de la signification de cette interprétation de l'art pariétal. Il avait dépassé, bien sûr, la notion qui a été la première de l'art pour l'art, et profitant à cette époque des travaux d'ethnographie comparée, il a fait sienne la théorie d'une explication comparative par l'ethnographie. Beaucoup de populations, de tribus, dessinent des mains. Oui. Et dans l'art pariétal, il y a des mains placées autour ou sur des animaux. Et l'explication qu'il en avait donnée était que ces mains sont un signe de possession, soit sur les parois, soit sur les figures. Et conséquent, une sorte de magie de contact qui permet à la chasse de capturer plus facilement un gibier nécessaire à la survie, pour l'acquisition de la viande, ou bien des animaux dangereux pour la tribu, et par conséquent, une signification de possession et d'envoûtement. Cette théorie de l'ethnographie comparée, de la magie quelque peu d'ailleurs améliorée, qui s'appuie sur des exemples bien précis, qui concernent les figurations, pas tellement fréquentes, mais enfin suffisamment fréquentes dans l'art pariétal, de personnages humains, de figures humaines, généralement masculines, qui sont représentées avec des phoques animales. Ces sorciers, comme on les a appelés, et comme on les appelle encore, ont leur équivalent, leur... très exact, chez des populations comme par exemple certaines tribus indiennes de l'Amérique du Nord, et le sorcier du Trois Frères, par exemple, d'une grotte des Pyrénées, qui a des bois de cerf sur la tête et une défroque de dépouille animale, a son équivalent très exact chez les Indiens Navarro, où il représente actuellement encore un sorcier. On peut donc dire que l'interprétation de ces figurations humaines comme des sorciers n'est pas du tout en contradiction avec ce que l'on sait de l'ethnographie, que nous apprend l'ethnographie actuelle et toujours.
L'abbé Breuil, document.
Il vivait comme plus ou moins les peaux rouges d'avant Colomb. C'est-à-dire qu'il vivait par petites tribus qui poursuivait le gibier là où il était, faisant des migrations si c'était nécessaire, et suivant le gibier, peut-être, des frontières ouest de l'Allemagne, aux Pyrénées, par exemple. Je pense qu'ils étaient exactement comme nous, qu'ils avaient une aussi belle intelligence pour le moins, et que c'était déjà à ce moment-là, non pas les plus anciens hommes, mais les premiers et très remarquable représentant des nouveaux hommes dont nous sommes la continuation.
Lorsque nous sommes rentrés dans la grotte, vous avez employé le terme sanctuaire.
La grotte de Fontgom pose le problème de la conception que l'on peut avoir d'un tel ensemble, et on peut se demander si ces grottes étaient vraiment des sanctuaires réservés seulement à quelques initiés. Ce que nous savons pour Fontgom, c'est que cette grotte n'a pas été un habitat. Nous avons trouvé des traces de passage des hommes préhistoriques, des silex taillés, des ossements, mais pas vraiment tout le matériel, tous les déchets qui encombrent d'habitude un habitat. Donc cette grotte n'a été fréquentée, semble-t-il, que pour y exécuter ses dessins et peut-être des cérémonies magiques. Mais cette notion de sanctuaire n'est pas constante dans l'art préhistorique, et l'on connaît des œuvres qui sont, elles, en relation directe avec un habitat, comme c'est le cas au Cap Blanc, comme c'est le cas dans la grotte de Fontanay, etc., etc. Et d'autre part, il y a des grottes dont l'entrée a été habitée par l'homme et la galerie arrière a été utilisée pour dessiner, peindre ou graver. Donc, c'est là un des mystères de notre interprétation de l'art préhistorique. Oui.
André Leroy-Gourand, professeur au Collège de France.
L'interprétation de la pensée préhistorique s'est faite à coup de comparaisons un peu sommaires. C'est là un des reproches que Madame Lamming-Emperer, qui travaille sur cette question depuis déjà plus de 20 ans, et moi avons trouvé difficile à avaler. L'homme de Cro-Magnon vivait peut-être un peu à la manière d'un Esquimau, mais ça n'était pas un Esquimau, ni un Australien. En empruntant un feuillet à chacun des arbres culturels des primitifs, on arriverait à faire un homme préhistorique absolument monstrueux. L'interprétation des œuvres d'art s'est faite beaucoup sous le coup de ces réminiscences. Et il faut se méfier un peu de tout ce qu'on a introduit comme magie, comme rite d'envoûtement. C'est pas l'exemple qu'on peut prendre est celui des blessures. Sur les animaux marqués d'une flèche ou où l'on voit du sang qui coule. Ça a accrédité l'idée que les chasseurs dessinait ses blessures sur les animaux pour les capturer plus facilement par des voies magiques. Or, en fait, j'ai eu l'idée un jour de faire le pourcentage des animaux fléchés par rapport aux animaux pas fléchés, et il y en a moins de 4% qui sont marqués. Alors les 96 autres, on peut se demander à quoi ils auraient bien pu servir depuis une vingtaine d'années. Et les sciences sociales étant de plus en plus développées, on s'est penché vers des interprétations sociologiques. C'est-à-dire que on y a vu, c'était un des thèmes développés par Madame Lamming Emperaire, on y a vu des clans différents, le clan du bison et le clan du mammouth, ou le clan du cheval. Ça n'est pas très bien démontré jusqu'à présent.
François Borde, directeur de l'Institut du Quaternaire à l'Université de Bordeaux 1.
Je crois, pour en revenir sur cette question de l'interprétation de l'art préhistorique, je crois, c'est un point de vue que ma femme partage d'ailleurs, que vouloir donner une interprétation de l'art préhistorique, c'est oublier que l'art préhistorique a duré une vingtaine de milliers d'années. Et que ce qui était vrai à l'Aurignacien vers moins de 30 000 ans n'est pas forcément vrai au Magdalénien final vers moins de 10 000 ans. De plus, il faut se souvenir, je le dis toujours à mes étudiants, que les hommes préhistoriques étaient des hommes. C'est-à-dire qu'ils avaient à côté d'activités socialisées, régies par des rites et par des coutumes, ils avaient aussi une spontanéité. De ce point de vue-là et du point de vue de l'ethnographie comparée, je peux vous citer une anecdote récente. Il y a 2 ans, j'étais en Australie, dans l'ouest de l'Australie, travaillant avec un de mes collègues australiens. Et nous avions vu un certain nombre d'abris peints, qui étaient fort beaux d'ailleurs, dans lesquels il y avait en particulier des mains et d'autres peintures animales. Et cet collègue australien a continué, après mon départ, à explorer la région. Et il a trouvé une peinture relativement récente, parce que les peintures australiennes sont quelquefois contemporaines, qui représentait un kangourou avec des mains humaines. Alors évidemment, ça l'a beaucoup intrigué. Et comme la peinture était récente, il s'est mis à interroger les gens de la tribu voisine pour savoir, n'est-ce pas, s'ils avaient quelque idée. Et un vieil Australien d'une cinquantaine d'années lui dit « Oui, je me rappelle très bien, j'ai fait ça il y a fort longtemps. » Alors mon collègue lui dit « Ah bon, eh bien, vous allez peut-être pouvoir me renseigner. Pourquoi ce kangourou a-t-il des mains humaines ?» Alors l'Australien Harry a dit oh, « Ça m'avait paru une bonne idée à l'époque. » Il n'y avait pas d'autre raison, il n'y avait pas de raison magique, il n'y avait pas de raison rituelle, de raison sociale. Ça lui avait paru une bonne idée à l'époque. Et je crois que parmi l'art paléolithique, à côté d'art qui est certainement religieux, d'art qui est certainement magique, il y a aussi ce qui paraissait une bonne idée à l'époque.
François Pratt, maître assistant à l'université de Bordeaux 1.
Toutes les gravures et peintures exécutées sur objet mobilier ne sont pas utilisables par le paléontologiste. Et certaines d'entre elles, qui du point de vue artistique sont de purs chefs-d'œuvre, par l'expression, par le mouvement qu'elles expriment, eh bien, peuvent ne pas être de bons documents scientifiques. Cependant, dans la grande majorité des cas, une détermination du genre est relativement facile. Parfois, on peut aboutir à une identification de l'espèce. On peut ainsi, alors, distinguer un bouquetin des Pyrénées d'un bouquetin des Alpes, peut-être un ours brun d'un ours des cavernes, plus facilement, sans doute, un âne d'un cheval.
Alors que peut-on en conclure sur les capacités des artistes préhistoriques, sur leur façon de voir, d'enregistrer et de reproduire?
Eh bien, ils s'intéressaient à des choses qui n'étaient pas exactement ce qui nous intéresse. Vraisemblablement, pour eux, n'est-ce pas, représenter exactement les pattes du cheval n'était peut-être pas très important. On constate dans l'art préhistorique un mélange à la fois de réalisme extraordinaire dans certains cas et de schématisation qui est également très remarquable.
Et le même animal peut être parfaitement dessiné jusque dans le plus petit détail, pour la tête par exemple, et avoir des jambes qui se terminent sans que les sabots soient indiqués. Ce qui montre que, pour l'artiste paléolithique, le cheval était identifiable beaucoup plus à sa tête qu'à ses pattes.
Oui, mais l'artiste a souvent exagéré, justement, dans les représentations. Les bisons ont très fréquemment, notamment à Van Gogh, des bosses énormes et quand même beaucoup plus importantes qu'il n'en avait en réalité.
Oui.
Il y a une massivité de l'avant-train chez le bison, oui. Mais enfin pas à un tel point.
Maintenant, il est possible que le bison des steppes vurmiens ait été quand même relativement très massif et très lourd. Peut-être en tout cas plus massif que le bison d'Europe actuelle. Et peut-être au moins aussi massif que le bison d'Amérique actuelle, qui, vous savez, quand même un avant-train extrêmement lourd aussi.
Et pour en revenir au mammouth, cet animal pose un problème quand même dans certains cas. Parce qu'on en trouve des dizaines, voire plus d'une centaine de représentations dans certaines grottes, comme à Rouffignac, et une bonne quarantaine dans la grotte de Bernifal, par exemple.
Oui.
Or, cet animal a laissé très peu de restes, malgré tout, dans nos gisements paléolithiques supérieurs du Périgord.
Mais vous savez qu'il y a un autre...
Il y a un déséquilibre.
Oui, oui. Mais il y a un autre exemple encore peut-être plus frappant à ce sujet. Vous savez que le bouquetin est bien représenté dans la caverne, sur les parois de la caverne de Père Nompère en Gironde. Oui. Or, il paraît à peu près certain que le bouquetin n'a jamais mis les pieds, n'a jamais existé en Gironde. Et il a été fort bien représenté par les artistes de Père Nompère.
Mais alors ?
Eh bien, je ne sais pas, ces hommes préhistoriques l'ont vu ailleurs, sans doute, peut-être pas très loin. Le paléontologiste, sauf maintenant, nous en avons peut-être quand même une preuve de l'existence du bouquetin des Alpes en Périgord. Mais jusqu'à présent, on n'avait absolument aucune preuve de la présence du bouquetin des Alpes en Périgord, si ce n'est justement les représentations de cet animal par les préhistoriques.
Professeur André Leroy-Gourand.
Mais Breuil avait, pour la grotte de Niau en particulier dans l'Ariège, et pour les trois frères, il avait signalé qu'il y avait une certaine contradiction entre l'abondance du renne dans les sites et sa rareté dans les cavernes. Enfin, il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette histoire. C'est que ils ont représenté des bœufs, des bœufs sauvages, des bisons, des chevaux, des bouquetins, mais toujours dans une certaine proportion. Il y a beaucoup plus de chevaux que de bisons, beaucoup plus de bisons que de bouquetins, beaucoup plus de bouquetins que de mammouths. Mais jamais, ça joue toujours sur deux, trois ou quatre personnages. Et jamais on a trouvé une grotte où il n'y aurait que des mammouths, par exemple. Ou bien une grotte où il n'y aurait que des hyènes, je suppose, ou des chevreuils, tous animaux qu'on retrouve dans les couches archéologiques et qu'on ne trouve pas sur les parois. C'est-à-dire que le caractère très homogène des représentations, leur diversité, et puis le fait qu'il y ait des contradictions avec les contenus archéologiques, me semble donner une idée du caractère abstrait de l'art paléolithique, qui est une idée digne de méditation.
Robert Lancement.
L'abbé Breuil n'était pas un savant de cabinet, et il a passé toute sa vie de chercheur sur le terrain, ou plus exactement dessous, puisque ses séjours dans les cavernes totalisent plus de 3 années. Il a étudié tous les sites importants d'Europe, d'Asie et d'Afrique, où il était appelé dès qu'une découverte avait lieu. C'est ainsi qu'il a travaillé 6 années en Afrique australe.
Professeur Tobias de Johannesburg.
Pendant la guerre, Monsieur l'abbé Breuil a été invité en Afrique du Sud de faire le général Smuts. Pour 4 ou 5 années, l'abbé Breuil a étudié toutes les art rupestre dans l'Afrique du Sud et aussi l'Afrique du Sud-Ouest ou Namibia. Pour la première fois, toutes les peintures d'Afrique du Sud ont été comparées avec les peintures d'Espagne, de France, d'Europe en général. Peut-être 40, 48 ou 49 pour la deuxième fois après la guerre est encore étudié les nouvelles découvertes de peinture en Afrique du Sud et le Sotho aussi, le Sotho, Basutoland, dernièrement, et aussi Afrique du Sud-Ouest. En Afrique du Sud-Ouest, il trouvait indication dans les grottes de Brandberg, près de Windhoek, indication peut-être de contact entre Europe et Afrique du Sud dans peut-être 2000 ou 1000 années.
Max Saradet, conservateur des monuments historiques de la région Aquitaine.
Lors de la découverte d'une grotte, il y a beaucoup d'incrédulité, on se demande si ce sont des faux. Ça a été, lors de la découverte de la grotte de Fontgaume, en 1901, où M. Cartaillac, qui était professeur de préhistoire à l'Université de Toulouse, et la plupart des préhistoriens doutaient de l'authenticité des peintures pariétales. Au moment de la découverte de Rouffignac en 1956, là, on s'est dit, ça doit être des faux du maquis, on ne pense pas que ça soit vrai. Dans les deux cas, ce qu'il faut souligner, c'est que les examens techniques d'analyse, en particulier des pigments de peinture, ont permis de prouver qu'il s'agissait d'oxyde de manganèse pour les noirs et qu'en conséquence, ça ne pouvait pas être le fait, si vous voulez, de lampes à acétylène qu'auraient manipulé des spéléologues ou des maquisards.
Là, on va au fond de l'abri pour prendre le petit train, vous dites ?
Exact.
Paolo Graziosi, professeur à l'Université de Florence.
Alors, l'abbé Breuil est allé pour les premiers là-bas en confirmant absolument l'authenticité de ces extraordinaires peintures. Et je crois que ça a été, l'abbé Breuil a été vraiment heureux de cette découverte, car il a pu voir encore ce témoignage si ancien et si frappant d'art préhistorique. Vous pensez que l'abbé Breuil avait dédié toute sa vie à l'art paléolithique. C'est lui qui a commencé à étudier l'art paléolithique en France et dans le monde entier. Et je crois vraiment que ça a été une grande chance qu'il a eue aux dernières années de sa vie, n'est-ce pas ?
Oui, je crois que c'était sa dernière
visite. Louis-René Nougier, professeur à l'Université de Toulouse.
Sa première visite à Rouffignac a duré 7 ou 8 heures à peu près. Il avait dans les 80 ans, dans des conditions pénibles de visite. Et sa joie véritable, sa joie juvénile, son enthousiasme devant certains de ses dessins, devant certaines gravures, devant les trois rhinocéros qu'il avait trouvés les plus beaux de l'art quaternaire, avec de ces exclamations qui n'étaient peut-être pas très apostoliques, mais qui véritablement montraient son enthousiasme.
Vous voyez qu'il y a une citation de la Breuil devant la prise d'imam.
Moi j'ai l'impression d'être dans Jules Verne, si j'ose dire.
Oui, sauf que nous ne parcourons pas avec le même effort.
Non. Enfin, il y a une époque où ce n'était pas facile de visiter parce qu'il y a des griffades d'ours un peu partout. Il est sans compte quand la grotte était habitée par une peuplade d'ours qu'elle ne nous aurait pas laissé aussi facilement, tranquillement pénétrer dans cette grotte.
Les dessins de Rouffignac ont été connus parce que deux préhistoriens pyrénéens, en l'occurrence le professeur Louis-René Nougier et son ami Romain Robert, sont venus dans cette grotte et ont annoncé au monde scientifique qu'il existait bien des peintures et des gravures d'époque paléolithique dans une caverne connue pourtant depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Et cette découverte est quand même à l'initiative de la famille de Plassard puisque ce sont eux qui ont appelé Nougier et Robert à Rouffignac.
Mais ça, c'est qu'est-ce qu'on entend ?
Ça, c'est une... c'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est une petite cataracte qui nous... inonde un petit peu,
un
petit
climat
peu
froid.
De... en période de pluie.
Bien, ça climatise le... l'autre partie de la grotte, heureusement. Mais pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, cette grotte était... les peintures, les gravures n'étaient pas connues, même de l'abbé Breuil, qu'il avait pourtant visité.
En 1909 ou 15, ma mémoire me trahit, pour chercher des insectes souterrains. Mais il n'avait pas eu l'idée de venir dans la partie qui renferme des gravures et des peintures. On pourrait arrêter peut-être un petit moment là.
C'est nous. Oh, mais on vient travailler, c'est nous. Ceci,
nous sommes en présence de représentations qui sont relativement rares dans l'art pariétal, paléolithique. Et l'on comprend bien sûr que l'abbé Breuil se soit longuement arrêté devant ces trois rhinocéros qui sont des représentants de cette faune froide de la dernière glaciation, la glaciation de Wurm, des rhinocéros laineux, donc avec une toison laineuse, avec une grosse bosse de graisse, avec ses cornes développées, cette double corne, qui sont les caractéristiques visibles sur ces figurations, caractéristiques de cette espèce.
Et là, nous allons plus loin au fond de la grotte. Je vois. C'est un mammouth ?
Oui, c'est un mammouth. C'est même, je dirais, une frise de mammouth, parmi les plus grandes frises, les plus grandes compositions de l'art pariétal. C'est une frise capitale en ce qui concerne l'abbé Breuil, qui, arrivant devant cet ensemble, s'est trouvé un petit peu amené à comparer avec ce qu'il connaissait déjà de la préhistoire, et donc à envisager une modification de sa pensée dans ce sens-là. C'est en même temps une frise qui respecte parfaitement le thème de Rouffignac, puisque ce sont deux équipes de hardes de mammouth qui se rencontrent, mais ceci bien sûr donc à une échelle assez grande, puisque l'ensemble constitue un panneau de 11 mètres.
La fonte de Gaume, vous l'avez moins ressenti peut-être ce matin, ça existe aussi. Et je crois que maintenant, on revient un peu, et c'était un peu dans la mémoire est morte un peu trop tôt, si vous voulez, on ressent un peu cette adaptation d'un dessin à la structure naturelle de la grotte. Ce panneau-là est extraordinaire, cette calcite blanche entre deux couches de silex donne l'envie, si vous voulez, de dessiner une frise de ces deux hardes qui se rencontrent.
Là, on a affaire à une véritable scène.
Voilà. Une scène animée.
Il ne s'agit plus d'animaux séparés, il s'agit d'une histoire.
Exactement.
C'est quand même important, car s'il y a le côté, s'il y a le caractère du préhistorique, il y a aussi le côté humain qui fait qu'il se laisse influencer quand même par son support, par sa paroi, et qu'il va se laisser aller à une composition, comme celle-ci.
Oh, mais presque partout, l'artiste magdalénien en particulier est impressionné et utilisait le décor à merveille, puisque certains animaux, vous savez, sont faits autour d'un rognon de silex qui imite l'œil ou d'un rodan rocheux pour une. Le relief de la paroi a été utilisé d'une manière extraordinaire. Alors, vous avez des graffitis datés 1808, voyez-vous. Il y avait sur la frise des mammouths un nommé Du Barry, qui était ingénieur du roi, chargé des travaux pour la carte de Belém sous Louis XV.
Pour vous dire. Effectivement, encore une preuve.
Ces autres mammouths avec ces serpentins. Macaroni.
Ah, c'est ça les macaroni.
Oui. Monsieur.
Voilà. Macaroni, Bernard.
des morceaux. On va les voir.
On en verra des mieux, plus loin.
Allez, le coup des nids d'ours quand même.
Il faut en parler,
c'est vrai.
Parler des nids d'ours.
À gauche, madame, regardez. Si c'est saisissant.
Monsieur Rousseau rappelait tout à l'heure que le professeur Nougier qualifiait Rouffignac de cavité pyrénéenne. Eh bien, si les Pyrénées sont riches en restes d'ours, Rouffignac également, puisque tous ces cratères importants ici, on peut dire 2 mètres de diamètre, en moyenne, sont des nids, des bauges, creusés, façonnés par les ours des cavernes, et donc dans lesquels ils sont venus hiberner.
Mais il y en a des dizaines et des dizaines.
Il y en a une très grande quantité, disons sur 2 km de galerie, ce qui ne doit pas vous permettre de savoir si nous sommes en présence d'une occupation par un groupe d'ours ou au contraire une longue occupation par des animaux relativement isolés. On ne peut pas, au vu de ces nids d'ours, déterminer, disons, le standing de vie de l'ours moyen.
C'est bon.
Voilà, il faut descendre, là.
Oui. Je vous suis ou vous me suivez? Ah, oh! Mais écoutez, c'est vrai qu'on peut croire que c'est dessiné récemment, cette bête que j'ose pas appeler,
oui,
un bouquetin.
À cette différence près, c'est que les traits, les dessins sont faits avec une matière minérale qui est le bioxyde de manganèse, alors que les graffitis, toutes les inscriptions postérieures sont faites à la flamme de bougies ou de torches. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la même matière. Et tout doucement, cette matière charbonneuse qui vient de l'éclairage des visiteurs se dégrade, alors que la matière minérale qui a servi à faire les dessins, elle ne se dégrade pas.
C'est vrai que ceux-là, alors, sont parfaits. Et c'est celui-là, le mammouth à l'œil coquin?
Ah non, le mammouth à l'œil coquin, il est encore plus loin. Il faudrait faire à 4 pattes, hein, parce qu'ensuite, la galerie est plus basse, le plafond est plus bas. Il faudrait faire encore une centaine de mètres pour arriver à ce qui est donc ce qui a été le terminus de la Pébreuil. Donc, mettons à 1250 mètres de l'entrée de la cavité. Alors, justement, je pense qu'il est bon de préciser que si, à l'heure actuelle, nous sommes dans une salle, lorsque ces figures ont été découvertes, et donc lorsqu'elles ont été réalisées par les paléolithiques, le sol était à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il oscillait entre, disons, 80 cm et 1,20 m.
Dans le domaine de la datation, je crois quand même que le professeur Leroy Gourand a fait faire un très grand pas à la connaissance des dessins préhistoriques. Et ça, il faut le dire. Il semblerait que les conceptions de l'abbé Breuil sur les 2 cycles d'évolution de l'art préhistorique soient maintenant périmées. Et on ne peut pas laisser tomber totalement ce qu'il a fait au niveau de la datation relative et des superpositions, mais je crois que Leroy Gourand a précisé fortement la connaissance des styles de dessins préhistoriques. Et notamment, il a rejeté dans des époques plus récentes, c'est-à-dire le solutréen et le magdalénien, énormément de figurations que Breuil avait attribuées au premier cycle aurignaco-périgordien, notamment Lascaux. Et je crois que la datation de Lascaux par l'abbé Breuil a été une grande erreur de sa part.
Je crois que le moment est venu de demander à Alain Rousseau de nous situer la période de l'art pariétal dans l'ensemble de la préhistoire et de l'évolution de l'homme.
L'art pariétal franco-cantabrique, étudié particulièrement par l'abbé Breuil, se situe dans une période de temps qui va de grosso modo moins 25 000 ans à grosso modo moins 8 à 10 000 ans. Oui. C'est-à-dire une période très courte relativement la durée des temps préhistoriques, à l'existence de l'homme. Vous savez qu'on nous parle maintenant d'un homme vieux de 2, 3, voire 4 millions d'années pour l'Afrique. Mmh. On nous parle d'un homme remontant à 700 ou 800 000 ans pour la France. Mmh. Mais ces populations-là ne nous ont pas laissé de traces concrètes d'un art quelconque. Les premières traces qui apparaissent sont celles de l'Aurignacien. On connaît quelques petits vestiges plus anciens, notamment un bout d'os gravé peut-être de l'Acheuléen, du Pêche de l'As, un petit morceau d'os du Moustérien, c'est-à-dire aux environs de 80 000 ans avant Jésus-Christ, ou une pierre à cupule aussi de la même époque. Mais les vrais dessins figuratifs n'apparaissent qu'à partir de l'Aurignacien, c'est-à-dire aux environs de 25 000 ans approximativement.
Bon, alors, une autre question, je vous en ai parlé tout à l'heure d'ailleurs. Est-ce que vous pourriez nous dresser très succinctement également le tableau de toutes les manifestations artistiques, c'est-à-dire depuis la gravure, peinture, ronde-bosse, moulage, etc.
Bien, l'art préhistorique se manifeste de plusieurs manières. Dans la grotte des Combarelles, qui fit date en 1901, il y a essentiellement des gravures incisées avec des lames ou des burins de silex dans le rocher. Dans la grotte de Fontgomme, il y a des gravures, d'une part, mais il y a aussi des dessins. Certains de ces dessins sont au trait, monochrome, les contours et certains détails étant donc faits de manière linéaire. D'autres dessins sont modelés, c'est-à-dire qu'il y a un remplissage partiel du corps. D'autres, enfin, sont polychromes, bichromes ou polychromes, c'est-à-dire plus de deux couleurs, en noir et rouge, en noir, rouge et brun, etc., etc. À Rouffignac, on trouve essentiellement des dessins linéaires noirs et des gravures. Mais dans d'autres grottes, on connaît, dans d'autres grottes ou abris, on connaît des sculptures, les unes sont en bas-relief et les autres en haut-relief, notamment dans l'abri du Cap Blanc, où certains chevals qui mesurent 2,30 m ou 2,15 m de long au total, à 30 cm environ de relief. Certaines de ces sculptures étaient d'ailleurs rehaussées de peintures rouges et noires. Enfin, dans quelques grottes des Pyrénées, il existe également des modelages en argile avec le limon de la grotte. Et je pense notamment aux fameux bisons d'argile du Tuc de Doubert, qui sont des modelages en ronde bosse. Ou bien dans la grotte de Montespan également, un petit ourson. Et enfin, à Bédéillac, des bas-reliefs de bison modelé dans l'argile.
Vous parliez des 100 mammouths, mais vous disiez que vous reconnaissiez les mammouths de Rouffignac parce qu'ils sont différents des autres mammouths. Et vous disiez que l'artiste était définissable en somme.
Je crois que ce n'est pas quelque chose qui est spécial à moi. C'est quelque chose qui est lisible par n'importe qui allant sous terre. Enfin, pour voir des figurations pariétales, j'entends. C'est-à-dire que lorsqu'on a vu certaines figures de Rouffignac, de même que lorsqu'on a vu certaines figures de Combarelle ou certaines figures de Lascaux ou de Fontgomme, eh bien elles ont un style, un cachet, un coup de patte qui est spécial et qui fait que si on vous donne, disons, un pot pourri de représentation préhistorique prise en photo, vous ne mélangerez pas. Même si vous ne les avez pas vues, vous saurez dire ça c'est à Rouffignac,
ça c'est à fond de gomme, ça c'est certainement à pêche-merle, ça c'est absolument, c'est sûr, c'est agneau. Et ça, oui, c'est très caractéristique de l'art pariétal. Nous sommes dans la zone, géologiquement parlant, centrale de la grotte, c'est-à-dire la zone fracturée, la zone fissurée, celle qui à l'origine a été le point par lequel la rivière qui a creusé ses couloirs pénétrait sous terre. Et à ce niveau-là, eh bien, elle se partageait en deux bras, donc un vaste delta souterrain, un premier bras que nous achevons de remonter, et puis un deuxième dans lequel nous allons descendre, et qui va nous conduire à la résurgence, qui est, enfin, une des résurgences, qui est actuellement l'entrée de la cavité. Et donc, étant dans la zone fracturée, il est normal qu'actuellement encore, nous souffrions de ces fissures qui nous provoquent ces infiltrations importantes dans le cas présent.
Vous ne croyez pas ?
Comment ?
Au point de vue conservation, c'est excellent parce que ça crée un point froid et un rideau, en particulier l'été. La sécheresse, la température élevée de l'extérieur ne pénètre pas dans le fond de la grotte où se trouvent les peintures.
Ça, j'en suis absolument convaincu.
Nous avons le même phénomène à Lascaux en particulier, où vous avez une espèce de douche en permanence qui climatise naturellement l'intérieur de la grotte.
Docteur Léon Palès.
Il est de ceux qui ont ouvert l'Église à une vision plus exacte de l'évolution de l'homme et qui ont permis que fût abordé le problème des origines de l'homme sous son aspect purement scientifique, sans que la foi en souffrît le moins du monde. Il avait à ses côtés dans ce domaine-là un autre prêtre, un grand penseur, qu'il aimait énormément, qu'il admirait, le père Teilhard de Chardin. Breuil, tout de même, devant le penseur et le philosophe qu'était Teilhard de Chardin, qui était en même temps un paléontologiste et un géologue de premier ordre, me dit un jour, Teilhard, quand même, il va trop loin. Mais néanmoins, c'est Breuil qui a mis en clair, si je puis dire, expliqué certaines pensées de Teilhard de Chardin qui pourraient paraître obscures aux gens qui ne connaissent pas vraiment et les problèmes de l'origine de l'homme et de la vie et les problèmes de l'Église. Le 14 août 1961, dans sa propriété de l'île Adam, entouré de ces fleurs qu'il avait apportées dans son jardin ou qui lui étaient venues de tous les coins de la terre, il disparaissait de ce monde comme une lumière s'éteint. Il avait 84 ans. Trois mois plus tôt, le 11 mai 1961, sentant que les temps étaient proches, il avait rédigé d'une écriture moins hermétique qu'à l'ordinaire et d'un cœur ferme un addenda à son testament. Il voulait qu'en sa personne fût affirmée sur la matière la primauté de l'esprit. Assuré que la postérité honorerait sa mémoire et son œuvre, sa dépouille devait disparaître sans éclat.
Adios.
Adios.
Adios, amigo.
C'est la fin.
Se perd dans une galerie totalement inconnue et vous partez comme ça pendant des kilomètres et des kilomètres.
Mais Alain Rousseau, vous devenez Jules Verne.
Thank you.
C'était « En Périgord sur les pas de l'abbé Breuil », une émission proposée par Robert Lancement, mise en onde Jeanne-Rolin Weiss, première diffusion le 4 mars 1977 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.